une tournée à la clé.
Avec Vali et Didier Varro.
Nous y sommes enfin. Ils sont trois auteurs, compositeurs, interprètes. Nos auditeurs Zazie, Orelsan les ont choisis.
Et ils s'affronteront en finale devant le public de l'Olympia.
Alors qui sont-ils, monsieur le président?
Arcadin et sa pop électro-atmosphérique.
Hello.
Clou et son folk pétillant.
Incroyable.
Blanchard et ses chansons de caractère.
Je prends la voix de crooner ou pas?
Mes chers auditeurs,
on a les moyens de vous faire chanter. En partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France, la SACEM et la FNAC, à retrouver ce samedi sur France Inter à partir de 17h30. France Inter, la voix est libre.
C'est Daniel Mermet et c'est là-bas si j'y suis et c'est maintenant sur France Inter. Maintenant sur France Inter, après un bip de répondeur, non, perdu, gagné. Daniel Mermet n'est pas là. Ah, bon, alors je vais vous donner l'heure. Il est bien 14h04 sur France Inter.
Les hommes politiques sont fantastiques. Ce matin, j'ai écouté la matinale de Patrick Cohen, et puis alors l'invité, c'est Jean-Pierre Raffarin. Alors, tenez-vous bien, ce qui a plombé, ce qui plombe le fret sur les trains, le fret SNCF, c'est les grèves. Bon, Patrick Cohen a essayé quand même de... Enfin, lui a quand même fait remarquer que c'était un peu gros, mais non. Avec un aplomb fantastique, il nous expliquait que c'est les grèves qui font que le fret SNCF ne marche pas. Après que la SNCF se tire une balle dans le pied depuis des années avec ça, en y allant en reculant dans la promotion du fret sur rail, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, il est fantastique. Après, il nous a sorti que, effectivement, il ne fallait pas que la SNCF soit regroupée avec Réseau Ferré de France, suivant le principe que les compagnies aériennes n'étaient pas propriétaires de leur couloir aérien, de leur créneau aérien. C'est fantastique. Comparer un créneau aérien à une paire de rails et une ligne haute tension pour l'alimenter, là, je crois bien qu'on a du grand Raffarin. Hein. La pompe terrestre, mais sa connerie est grosse. Hein. Allez, là-dessus, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd, comme disait ma grand-mère. Bonne journée.
Bonjour aux AMG et à toute l'équipe de l'émission. Un petit message pour vous annoncer que, comme chaque année, un peu partout en France et ailleurs, se tiendra demain mercredi l'appel du 18 juin. À l'origine, c'est le quotidien Libération qui le lança en 1976. De nombreuses personnalités à l'époque signèrent ce qui était alors une pétition appelant à la décriminalisation du chanvre récréatif, le cannabis. Depuis 1994, c'est le CIRC, le collectif d'information et de recherche cannabique, qui a repris le flambeau en appelant les cannabinophiles et leurs sympathisants à se rassembler pacifiquement et en famille pour demander une réglementation de la filière récréative et thérapeutique du chanvre. Mais pour que cela se produise, encore faudrait-il pouvoir en parler sereinement. Or, la France est le seul pays d'Europe à punir la présentation sous un jour favorable des stupéfiants. C'est l'article L3421-4 du Code de la Santé publique, l'ex-L630, interdisant surtout aux opposants au dogme prohibitionniste de s'exprimer librement. De Marseille à Paris, en passant par Figeac dans le Lot, Bordeaux, Lyon, Tours et Tahiti, venez nombreux et nombreuses. La prohibition est un système criminogène. L'usage de stupéfiants est un crime sans victime. C'est un choix individuel qui ne peut nuire qu'à l'usager lui-même et non à autrui. Personne ne nous oblige à consommer une substance, quelle qu'elle soit. Pour plus d'informations sur les lieux et dates, www.18juin.fr.
Plutôt que de parler de la gauche radicale, de la gauche, ce qui donne une vision étriquée de la gauche, parlons plutôt de la gauche raisonnable, comme le propose Gérard Mordillat dans L'Humanité. Oui, une gauche de la raison, pour affirmer une ambition hégémonique de la gauche rationnelle, celle qui s'oppose à la montée des anti-lumières. Régis de Nîmes.
Povo, sem tesão não há solução. Você viu? Sem tesão não há solução. Povo, sem tesão você não há solução. A revolução.
Les collines verdoyantes et les plages de sable blanc bordant l'océan sont une véritable invitation à l'aventure. Voilà, on n'est jamais déçu avec les poètes. Pour guide touristique, nous voilà à Rio. Vous vous souvenez, si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Et là-haut, c'était les favelas. Et oui, depuis longtemps, Rio, c'est les favelas. La beauté époustouflante de Rio, c'est les favelas qui couronnent cette ville. Alors, en attendant le prochain match à 16h, qui va commencer à 16h, local Brésil-Mexique, c'est un grand événement. On va faire un tour dans la ville, dans Rio, dans les favelas dans une favela, la plus ancienne favela qui date de 1897, le Morro de Providencia, où les habitants luttent contre la gentrification de leur quartier. Dans la perspective du Mondial et des Jeux Olympiques, il y a quelques années, on leur a fait le coup de la pacification, c'est-à-dire on va pacifier les favelas. Et la police est arrivée, il y a eu des opérations parfois violentes. Finalement, on est arrivé à une solution qui a été un échange avec les gangs en leur disant « Les gars, vous continuez votre business, mais vous rendez les armes. » Eh oui, ça s'est passé comme ça. Une certaine pacification, une certaine tranquillisation de ces quartiers, une certaine sécurité aussi pour les habitants. Voilà, sauf que, dans celle où nous allons aujourd'hui, le Morro de Providencia, je rappelle qu'elle date de 1897, les habitants ont compris ce qui se passait pour ce qui les concerne. Il y a un projet immobilier, un projet pour le tourisme, pour les bobos, pour les bourgeois qui sont terrifiants, vous le savez bien, à Rio et au Brésil en général, le pays le plus inégalitaire du monde, ça les intéresse de s'installer là, comme jadis les bourgeois s'installèrent à Montmartre, par exemple, ou au Panier à Marseille. C'est le même processus, mais les habitants résistent, s'organisent. Voilà, c'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Sixième jour de grève de la SNCF, le journal de la 2, service public, n'a pas été foutu de nous faire un petit reportage de quelques minutes pour nous expliquer la position des grévistes. C'est quand même hallucinant. On voit les gens qui rouspètent sur les quais, on voit ces jeunes qui vont passer le bac et qui ont des soucis. Je dis pas que ça n'existe pas. On entend Manuel Valls qui dit que cette grève n'a pas de sens. Il y avait 18 mois qu'ils étaient en train de négocier. On n'a jamais entendu la voix des syndicalistes. Et à défaut d'entendre les syndicalistes de façon directe, qu'on nous explique les tenants et les aboutissants de cette réforme. Quelle est la crainte des syndicats? Pourquoi ils ne veulent pas de cette réforme? Sur le service public. Incroyable, incroyable. C'est Jocelyne de l'Ardèche.
Bonjour à tous les AMG, plus particulièrement aux AMG bourbonnais. Brigitte, Stéphane et Gérard vous invitent à la prochaine édition de Café Repère là-bas si j'y suis, le jeudi 19 juin à 19h. Le thème retenu est le paysage culturel local. Comme ça sera le dernier Café Repère de la saison, nous avons décidé de faire un repas tous ensemble. Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Brigitte au café Le Goût des Autres. Au revoir et bel été.
Rio de Janeiro. À ceux qui aperçoivent de leur avion la merveilleuse baie et la ville qui l'enserre de toutes parts, il semble que la capitale du Brésil soit une cité qui a cessé de grandir. Cependant, la population de Rio augmente chaque année dans une proportion vertigineuse et la crise du logement y est aiguë. Aussi, architectes et techniciens sont au travail. Des plans gigantesques ont été établis et chaque jour, nivelant les collines et utilisant la moindre parcelle de terrain, des équipes d'urbanistes dirigeant des armées d'ouvriers érigent des gratte-ciels dont l'harmonie dit que le siècle du béton a trouvé son style. Jour et nuit, sans interruption, les équipes se relaient. Capitale dynamique d'une nation en plein essor économique, Rio, entre le pain de sucre et le Corcovado, était déjà la 8e merveille du monde. Ses urbanistes sont en train d'en faire une des plus modernes métropoles.
Salut, c'est Daniel Mermez, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, fou de foot ou rien à foutre.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, on est quand même dans un endroit incroyable. Là, on a l'arrivée du funiculaire. Flambant neuf, énorme station. Et au loin, on voit le paysage de Rio, la mer, les lointains, etc. Et là, des façades décrépites, mais peintes.
On est dans la favela de Providencia, qu'on appelle le Morro da Providencia, la colline de la Providence, qui est la plus vieille favela de Rio. et qui connaît beaucoup de travaux depuis que d'abord il y a eu la pacification, donc l'entrée de la police qui est rentrée, qui est là, qu'on va voir au-dessus là, et qui fait que c'est plus les délinquants, la faction criminelle Comando Vermelho qui tient les lieux, sinon la police. Mais il faut savoir que là où il y a cet énorme nouveau téléphérique, c'était le terrain de foot des enfants, et qu'ils ont viré les enfants, et que quand ils ont viré les enfants ont fait une manifestation avec des petites pancartes en disant « c'est le seul espace qu'on a pour jouer ». Et donc ils leur ont pris cet espace pour faire ça. Ils ont inauguré en décembre 2012, une seule fois le maire a fait l'aller-retour, et depuis ils ne l'ont jamais mis en service, donc les habitants ne s'en servent pas. Les habitants continuent de monter avec le petit combi Volkswagen là qu'on voit là. Et ils avaient dit que pendant la Coupe du Monde, ils allaient le faire fonctionner, mais ils ne le font toujours pas fonctionner.
Alors on voit quand même que c'est la Coupe du Monde, hein, parce qu'il y a des drapeaux, il y a des guirlandes, il y a une certaine effervescence.
Bon, on monte.
Ah, favela, nunca foi reduto de marginal. Ah, favela, nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai do jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social.
L'escalier est particulièrement raide. Et les marches particulièrement hautes. Mais alors on se dit, bon, on va céder de la rampe. Mais non, la rampe vient d'être peinte. Ça, c'est un effet de la Coupe du Monde. Merci, on se retourne. Regarde cette vue extraordinaire, quand même. On se retourne et on a toute la baie derrière soi. C'est vraiment un des sites urbains les plus dingues du monde, hein. Rio.
En fait, là d'habitude, il y a des bateaux de croisière qui arrivent, alors on les voit vachement bien, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourtant, c'est la Coupe du Monde, mais il n'y en a pas. Et donc, l'idée, c'est que les touristes arrivent d'ici et puis puissent monter voir ce qu'était une favela, mais si possible, sans habitants.
Sans les habitants originels, quoi, c'est ça. Voilà. Avec peut-être d'autres habitants.
Ouais. Peut-être, ouais.
Ah oui, d'accord. Donc là, il y a des peintures sur les murs, là, des gravures.
Ouais. C'est des bas-reliefs, hein. Magnifique dans le mur.
Ça représente qui ?
Ça représente les habitants qui ont été expulsés, donc parce qu'une fois que le téléphérique amène jusqu'ici, pour pas que justement les touristes aient à monter ces escaliers, ils veulent faire un funiculaire. Donc toutes ces maisons sont censées être détruites, voilà. Et donc plusieurs sont déjà partis, comme eux.
Voilà, évidemment, c'est pas les bruits qu'on s'attend à entendre quand on arrive au Brésil. On s'attend à entendre la samba, la musique, les acclamations du football, etc. Nous, on essaye de prendre les choses sous un autre angle. Il y a tellement de choses qui sont dites actuellement sur le Brésil, sur le football, sur les luttes sociales aussi, qu'on est venu ici admirer le port merveilleux. Le port merveilleux, c'est où on est ici, ça va se faire. C'est un projet qui porte ce nom, qui est en marche et auquel s'opposent les habitants de cette favela. Alors les habitants disent communauté. Et pourquoi ? Parce que on est à Providencia ici, hein. 10 000 habitants ici qui redoutent de se faire virer. Il y en a déjà à peu près 1 000 qui se sont fait expulser. Et le scénario, on va nous l'expliquer, c'est Roberto qui est avec nous qui va nous l'expliquer. C'est un scénario qu'on retrouve dans d'autres favelas, dans d'autres quartiers, avec la pacification. Les autorités, la police, ont lancé des opérations de pacification, parce qu'on allait assurer la sécurité des habitants qui sont très demandeurs évidemment de sécurité contre la délinquance et contre les gangs. Mais on va s'apercevoir que les intentions et le déroulement de cette affaire est très différent. Alors, les bruits de tronçonneuses, de perceuses, de pelles et de pioches qu'on entend, c'est les habitants.
Et de postes à souder.
En fait, c'est les habitants qui sont en train de reconstruire une maison qui a été démolie par les autorités, par la mairie, pour virer les gens. Eh bien, ils se battent contre ça et ils sont en train de virer les gravats de cette maison démolie par la mairie et ils vont la reconstruire. Et puis là, sur ces escaliers, on est en train d'installer des rampes. En fait, ils sont là depuis 100 ans. C'est chez eux. C'est eux qui ont fait tout ça. Ils n'ont pas envie de se faire virer par des spéculateurs et voir ici s'installer des bobos et des touristes.
Je suis Roberto, je suis morador aqui da Providência. Nasci aqui, 38 anos.
Je m'appelle Roberto, je suis habitant de la Providence. Je suis né ici, ça fait 38 ans. Mm-hmm.
Et pour cause da obra do Morar Carioca na Providência, a gente teve que se organizar e criar uma résistance contre la préfecture.
Donc pour ces travaux qui s'appellent Habiter Carioca, qui est le projet de la préfecture de Rio, on a dû commencer à s'organiser et créer une résistance contre la mairie.
Pourquoi ? Le projet de la préfecture Morar Carioca, il avait inclus le téléphérique, faire un centre historique ici no alto du morro, colocar un plan inclinado na escadaria et faire une motovia et un centre sportif.
Donc le projet qui s'appelle Morar Carioca, c'est-à-dire Habiter Carioca, il inclut un téléphérique, un funiculaire sur ces longs de ces escaliers, un projet historique en haut, là où on est, et également une voie pour les motos, en fait.
Et vous dites qu'on veut vous expulser, on veut se débarrasser de vous pour faire un quartier bourgeois.
Na realidade, a gente percebe que é uma gentrificação não só na Providência, mas em toda a área que eles têm certo interesse. Então eles
on a l'impression que effectivement c'est une gentrification ici comme toute la zone qui veulent changer.
Là récemment, vous avez eu ce qu'on appelle une pacification. Qu'est-ce que ça a été cette pacification?
A pacificação, eles dizem que é para melhorar essa questão da violência, da insegurança. É o que o governo diz, mas a gente sabe que não é isso.
Eux, ils disent que c'est pour améliorer la sécurité, pour arrêter la délinquance, mais nous, on sait que c'est pas ça.
Porque, na realidade, foi criado projeto ao redor do morro, que é o Porto Maravilha.
Parce qu'en réalité, ils ont créé un projet autour de la colline, de la favela, qui s'appelle Port Merveilleux.
Ah. E eles precisam que esses investidores que estão investindo nessas obras ao redor tenham uma garantia de segurança, porque a segurança é para eles e não para nós.
Et en réalité, c'est les investissements et les investisseurs qui ont besoin de cette sécurité. Et c'est pour eux cette sécurité, c'est pas pour nous.
D'accord. Il y a une opération de pacification au prétexte qu'il y a de la délinquance, qu'il y a des trafics, qu'il y a des gangs. Les habitants peuvent espérer que ça va leur apporter une certaine sécurité. Or, ils vont découvrir qu'il y a un projet qui s'appelle le Port Merveilleux et que ce projet, ils ne vont pas en faire partie. Ils vont même être exclus, virés dans cette histoire. Et c'est contre ça qu'ils se battent.
Concordo.
Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait ça.
Pacificação que monitora todos os passos do morador, dizendo o que ele pode e o que ele não pode fazer, não é pacificação, é autoritarismo.
La pacification qui contrôle tous les pas des habitants, c'est pas de la pacification. En lui disant ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, c'est pas une pacification, c'est de l'autoritarisme.
Est-ce qu'il y a déjà des gens du quartier qui sont partis?
Inicialmente, eram 832 casas a serem removidas do projeto inicial. Já saíram 200.
dans le projet, dans le premier projet, enfin au début, il y avait 832 maisons qui devaient être expulsées et détruites, et il y en a 200 qui en l'ont été pour l'instant.
L'armée dans les rues de Rio. Non, ce n'est pas le retour de la dictature militaire.
Radio-Canada, 18 octobre 2011.
Mais les autorités ont dû envoyer les soldats pour venir à bout de bandes de narcotrafiquants qui terrorisent des quartiers entiers de la ville à partir des fameuses favelas. Le grand problème de Rio de Janeiro, c'est ces favelas. Bidonville de pauvreté et repère du crime organisé. Mais Rio, sans ces favelas, ce ne serait plus vraiment Rio. Une partie de son âme, de sa culture, réside dans ces bidonvilles. En bordure de la zone urbaine organisée, les montagnes sont rongées par les habitations anarchiques des réfugiés de la misère, la plupart venus du nord-est du Brésil. C'est ça, une favela.
À partir d'ici,
c'est un autre endroit, un autre Rio, un autre pays, dit le major Boussas. C'est un monde interdit pour raison de sécurité. Sur les murs, la marque CV. Commando Vermelho, le Commando Rouge, la bande criminelle qui contrôlait les lieux. Rue tortueuse, allée cachée, des dalles d'escaliers sans fin, un vrai coupe-gorge. Rio peut être une ville dangereuse si on ne prend pas constamment des précautions. Le plus grand défi du Brésil sera de la rendre sécuritaire pour les visiteurs venus du monde entier.
Mais tu participes quand même, tu regardes les matchs du Brésil.
Non, non.
Ah bon?
Estou torcendo porque quando você vê a bola rolar, acho que você relembra de tudo que muita gente já passou, muitas casas que foram demolidas e muitas tristezas que foram trazidas para o povo.
Non, je ne soutiens pas l'équipe parce que quand je vois le ballon qui roule, ça me rappelle toutes les maisons qui ont été détruites et toute la tristesse qui a été provoquée par cette Coupe du Monde.
Até mesmo psicologicamente. O que é você estar na sua casa e de repente um projeto vem e diz que você tem que abandonar a sua casa?
Même psychologiquement, parce que vous vous rendez compte de ce que c'est quand vous êtes dans votre maison et on vous dit vous devez partir, être expulsé. Ouais.
La Coupe du Monde a entraîné des milliers et des milliers d'expulsions.
Muita gente. No Rio de Janeiro, mais de 20 mil. Acho que deve estar em torno de 200 a 250 mil no Brasil.
Oui, beaucoup. À Rio de Janeiro, on en est à 20 000. Et je pense que sur tout le Brésil, on en est à 200 000.
Ce qui se passe derrière nous, c'est les gars qui sont en train de reconstruire la maison. La mairie a fait détruire la maison, c'est ça? Ok. Et là, c'est les jeunes du quartier qui sont en train de reconstruire la maison. Ils sont en train d'enlever tous les gravats dans ces sacs qui sont derrière nous. Ils ont enlevé les tôles qui servent de toiture et puis ils vont la reconstruire.
Exatamente. Porque o grande objetivo dessa resistência que a gente tem contra a prefeitura é justamente por moradia.
Oui, exactement, parce que la grande lutte qu'on a contre la mairie c'est justement pour le droit au logement.
Nosso direito de morar onde nascemos, mediante, independente de onde seja, é um direito nosso e esse direito tem que ser respeitado e prevalecido.
Notre droit de loger où on est né doit être respecté.
C'est une résistance, c'est une belle résistance, hein. Est-ce que vous avez des chances de gagner?
Acho que o fato da gente permanecer ainda aqui esses três anos é uma vitória. Essa liminar também é uma vitória que impede a remoção.
Je pense que le fait qu'on soit encore là après trois ans de lutte, c'est déjà une victoire. On a gagné une première fois en justice, ouais. Qui ne nous permet que pour l'instant les expulsions sont arrêtées.
O amigo morreu, na mão daqueles que tem que proteger. Homens fadados assassinaram você. Governador, o que você vai dizer?
Pacificação.
Cadê? Dizem que estão aqui pra nos defender. Mas raramente isso eu posso ver. Porque fogo com fogo eles querem combater. Ô governador, combate assim não adianta não. Escuta logo a voz da população. Nós precisamos de saúde e educação. Faz operação. Igual de humor, de Agui Caveirão. Contra o Culeça, revista
sou bandido não, sou trabalhador, o homem fardado nos culacha morador. Tem gente de bem na rua, muitos estudantes, nem todos que moram na favela é traficante.
On a des bouffées de samba en contrebas. On a un paysage immense devant nous. Toute la puissance, l'effervescence de cette ville de Rio avec le Corcovado qui est là-haut. Là, on voit de profil d'où on est. La gare, immense gare, des ponts, des autoroutes, des viaducs. Et si on continue là, il y a, j'imagine, ce que ça doit donner. Quand un but est marqué, c'est le stade Maracana, le Maracana. Ça doit sonner de partout parce que c'est en contrebas des montagnes et ça doit résonner partout dans toute la ville jusqu'ici. Et puis après, le paysage continue. Mais c'est ça le centre, l'épicentre de tout ce paysage, c'est le Maracana. Et ici, on est sur une colline en plein centre de la ville. Et les gens se sentent menacés. Ils risquent tout à fait d'être virés. Ils se battent pour rester là. Ils se battent pour rester là. Il y a un marchand de balais qui passe. Mais je pensais voir des drapeaux pour la coupe partout. Je ne vois pas grand-chose. Et vous soutenez la coupe ? Parce qu'on a rencontré des gens qui sont contre. Comité contre la coupe.
Je suis brasileiro, espero que nós ganhemos mesmo, né? E que se a vitória seja nossa, tá bom. E eles também vejam essas falhas deles aí, né? Que gastaram muito dinheiro com essa Copa.
C'est sûr que je suis brésilien, donc évidemment, j'espère qu'on va gagner, mais ça n'empêche pas le fait que je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dépensé pour faire cette coupe.
Tu vas aller voir des matchs?
Ainda não sei, tem ingresso pro Maracanã, pra final, e ainda não sei se vou, mas quero muito ir, tô muito orgulhoso. Porque, na verdade, eu quero dar pro meu pai.
En fait, je ne sais pas encore. J'ai un billet pour entrer à la finale au Maracana. Mais je ne sais pas encore parce que je vais peut-être le donner à mon papa.
Combien ça coûte un billet pour la finale?
R$400. É um preço bem caro pra gente.
R$400, qui est bien cher pour nous.
R$400, combien tu gagnes par mois? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Combien tu gagnes par mois?
Eu trabalho em um hotel, o meu salário é de mais ou menos R$900.
Je travaille dans un hôtel et je gagne R$900 par mois.
E para comprar ingresso, eu tive que fazer umas juntar economias porque é um momento importante, eu queria estar lá.
Et donc pour acheter ces billets, j'ai dû économiser parce que c'était un moment important et je voulais être là-bas.
Mas é um ingresso muito caro, mesmo assim, acredito que muitos brasileiros não podem estar lá por causa dos valores altos.
Mas c'est très cher et je pense que beaucoup de brésiliens ne peuvent pas y aller parce que ça coûte trop cher.
Mas o brasileiro festeja em qualquer lugar, no bar, na rua.
Mais le brésilien, il fête ça dans n'importe quel lieu, dans la rue, au bar.
A Casa da Bahia botou até uma promoção, botou uma televisão de 60 polegadas, num valor equivalente a 5 mil. Y si el Brasil fuese campeón, con un real, você levava de 59.
Casa Bahia, donc, qui vend des télévisions, a fait une promotion pour des télévisions de 70 pouces à 5000 reais. Mais si le Brésil est champion, ils vont vendre les télés à 1 reais au lieu de 5000 reais.
C'est vrai. Après la coupe, comme ça, ils vont liquider les stocks.
Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção, favela, oi. Favela, favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade a minha felicidade, favela.
dos sonhos de amor e do samba canção. Hoje, bem longe de ti, vejo a lua surgir. Me lembro da batucada e começo a chorar. É uma saudade bem rara, a distância que nos separa. Favela é tudo em que eu posso falar.
Carlos, como on dit vénère?
Oui.
En portugais, on dit Weiner.
Weiner.
Oui, en autrichien aussi.
Ouais,
en France, on dit Weiner, c'est pas mal. Hein. Bon, alors présentez-vous, déclinez vos titres de noblesse.
Non, je suis professeur titulaire de planification urbaine et régionale de l'Université fédérale de Rio de Janeiro.
Racontez-nous un peu ce qui se passe dans cette ville.
Bon, pour comprendre ce qui se passe dans cette ville, il faut comprendre ce qui s'est passé les 10, 15 dernières années. Un changement profond de notre ville. D'ailleurs, ce n'est pas simplement la ville de Rio ou simplement les villes brésiliennes ou latino-américaines. Toutes les villes, dans les 15-20 dernières années, ont changé beaucoup. Tout d'abord, la façon par laquelle elles sont conçues. La ville, depuis la Deuxième Guerre, sous la planification moderne, était conçue comme espace de circulation et de vie. Même la ville capitaliste, donc il fallait à l'État intervenir et organiser l'espace urbain de façon à que les fonctions urbaines, circulation, production, habitation, loisirs, puissent être organisées de façon rationnelle et fonctionnelle. La crise de l'État-providence, la crise des États socialistes réels, la crise de la planification et l'avancée des pensées néolibérales ont tout à fait changé la conception des rapports entre l'État, la société et le capital, avec un reflet très fort sur la ville. L'idée que la ville, de plus en plus, devient non seulement l'espace de la circulation de la production de la vie, mais elle-même devient un objet d'accumulation du capital. Il y a un processus de financiarisation de la ville qui est devenu évident à partir de la crise de 2008, parce que la crise de 2008 a été déclenchée par la crise des prime rates, donc un effet urbain. À partir de ce moment-là, la ville devient de plus en plus aussi conçue comme une unité économique. La ville conçue comme une entreprise. Les changements technologiques ont bouleversé complètement la géopolitique et l'économie mondiale parce que les capitaux aujourd'hui sont beaucoup plus mobiles. Ces changements ont fait que les villes concurrencent dans le marché mondial de villes pour attirer des capitaux, des touristes, des grands événements. Les événements sont partis de cette concurrence pour la localisation. Et dans ce cas-là, les villes, en général, deviennent donc des entreprises, des villes entrepreneuriales qui concurrencent et qui sont dirigées comme si c'était des entreprises. Parce que si la ville est une entreprise, il vaut mieux que ceux qui la dirigent soient des gens du métier.
RTL.
Alors c'est l'histoire extraordinaire d'un homme, c'est pas moi, qui valait 100 millions de dollars, c'est pas moi non plus.
3 novembre 2009.
Le roi de New York.
Oui, c'est un homme, un maire, qui brigue aujourd'hui son troisième mandat à la tête de la Grande Pomme et qui fascine bien au-delà des frontières, tant son parcours est singulier, car ce self-made man, millionnaire à 30 ans, milliardaire à 55, incarne à lui tout seul son rêve américain. Après avoir fondé l'agence de presse économique qui porte son nom, Bloomberg, il occupe depuis maintenant 8 ans le poste le plus dur, le plus prestigieux et le plus glamour après celui de Barack Obama selon la presse américaine. Du coup, pour perdurer un peu à cette place convoitée, Michael Bloomberg a vu les choses en grand. 100 millions de dollars dépensés pour sa campagne électorale. C'est donc l'homme politique américain qui a le plus dépensé sa fortune personnelle dans une élection à ce jour. Un homme dont seul Barack Obama a osé railler les travers lorsqu'il a déclaré peu avant une rencontre « Je vais voir un leader qui préside avec une main de fer sur des millions de dollars, qui contrôle les ondes et qui use de son pouvoir pour écraser tous ceux qui essaient de le défier. » Le roi de New York porte donc bien son nom.
ces changements changent complètement tous les concepts de planification et de politiques urbaines. La France a donné sa contribution parce que je pourrais dire que les grands-pères de ces changements, c'est le quartier La Défense et les soi-disant zones d'aménagement concertées. Pour être concurrentielle, une ville doit être flexible. La flexibilité est un atout important dans la concurrence avec les autres villes. Et les zones d'action concertées, justement, sont dans ce sens une des premières expériences de flexibilité urbaine. On crée une législation ad hoc pour des grandes opérations urbaines. Or, un grand événement sportif est une très, très grande opération urbaine. Donc je dirais qu'il y a un changement dans les villes qui a rendu possible que les grands événements sportifs deviennent en fait urbains. Le deuxième aspect de ce changement, c'est un changement dans l'industrie des grands événements. Les grands événements, les Jeux Olympiques, même la Coupe du Monde, n'étaient pas des grandes affaires, c'était des grandes compétitions sportives. À partir de la fin des années 70, des années 80, ils deviennent de plus en plus une grande industrie qui est contemporain aussi d'un changement technologique qui a rendu possible les transmissions sportives par satellite immédiate. Donc,
conséquence pour les habitants.
Conséquence pour les habitants. J'ai dit, ce que nous subissons maintenant, ce n'est pas la faute de la FIFA ou du Comité Olympique International. C'est le résultat d'un changement des conceptions et de l'appropriation privée capitaliste directe de la ville, le processus de privatisation de nos villes. Mais le jeu rend ça beaucoup plus visible. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre que le jeu, la Coupe du Monde, ne sont pas les coupables. Ils sont partis d'un processus, ils renforcent ce processus, ils cristallisent ce processus, ils approfondissent ce processus et surtout, ils rendent plus évident ce processus. Pourquoi ? Parce que c'est une quantité de capital, d'investissement financier, économique et symbolique, massif, concentré dans l'intérieur de l'espace. C'est qui les rend beaucoup plus visibles.
Voilà. Et visible avec de l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui doit disparaître, qui doit devenir invisible.
Ce qui est particulièrement grave, c'est que depuis la constitution de 1988, qui nous a organisés en tant que société, État, soi-disant démocratique, supposé démocratique, le droit à la ville est considéré un droit fondamental, constitutionnel, et le droit au logement aussi. Il est établi que les gens qui habitent dans les favelas ont le droit à y rester et que le rôle de l'État est de créer des conditions urbaines adéquates. Bon, en ce moment, on profite sous prétexte de jeux, des œuvres de jeux, de préparer la ville pour la Coupe du Monde, de préparer la ville pour les Jeux Olympiques. On prend prétexte pour donner suite à un certain nombre d'importants déplacement des populations pauvres vers les périphéries lointaines. Pour donner un exemple, moi je parle en ce moment de 170 à 200 000 expulsions forcées dans les 12 capitales de la Coupe du Monde et je parle de 50 à 70 000 expulsions dans la ville de Rio. Pour vous donner une idée de ce que ça veut dire que quand on prend l'histoire récente de la ville de Rio, le moment le plus terrible, dramatique d'expulsion a été la fin des années 60, 1960, le début des années 1970, sous la dictature militaire, où 35 à 40 000 personnes ont été expulsées des quartiers riches de la ville. En ce moment, on parle de 50 à 70 000 personnes. C'est-à-dire, on revient à une dimension de nettoyage social et ethnique de certains quartiers qui sont l'objet du désir des capitaux promoteurs fonciers. Et donc, c'est le double de ce qu'a fait la dictature militaire. D'où le caractère aussi autoritaire et brutal de cette ville qui est, ce que je dis, de plus en plus une ville d'exception où se joue la démocratie directe du capital.
Évacuation par la force au Brésil d'un squat situé à quelques kilomètres seulement du mythique stade Maracana.
Euronews, 12 avril 2014.
5000 personnes avaient élu domicile sur ce terrain vague depuis la fin mars, tentant d'y construire des logements de fortune. Des dizaines de jeunes ont tenté de résister aux 1600 policiers qui avaient cerné les lieux au petit matin.
Ils ont tout détruit en faisant évacuer les gens. Dieu merci, mon fils était avec moi. Nous n'avons rien eu, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Pourquoi on vit ici? Parce que nous avons perdu notre maison dans les inondations et on essaye juste de retrouver un toit ou quelque chose qui y ressemble.
La plupart d'entre eux ont quitté d'autres favelas où le prix des loyers est devenu exorbitant. Un tiers de la population de Rio vit dans une favela. Les affrontements ont fait 19 blessés.
Quando tu tenta cheio de amigos, se não tem neguinho, rala e é foda. Solta aí, tá aí. Dinheiro. Dinheiro pede, mas eu vou querer o meu. Dinheiro, primeiro. Aperta a mão, neguinho. Aperta a mão, neguinho. Dinheiro. Dinheiro pede, mas eu vou querer o meu. Dinheiro, primeiro. Aperta a mão, neguinho. Pede, mas é ele que acaba com o problema do sujeito. Se o bagulho fica doido, tiver que ficar direito. Com uma grana na mão, resolvo tudo. Eu dou um jeito, dou um jeito, dou um jeito. Dinheiro é bom, mas incomoda. Quando tu tenta cheio de amigos, se não tem neguinho, rala e é foda. Ligue-me, ligue-me.
On est avec Carlos Weiner. Aujourd'hui, qui décide, une ville comme Rio?
Tout d'abord, il faut comprendre ce que j'appelle la ville d'exception. C'est-à-dire, puisque la ville doit être flexible, il faut faire ce que la Banque mondiale appelle une planification amiable au marché. Friendly market planning. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'État est toujours présent, mais c'est un État différent. Dans notre cas, qui dirige cette ville d'exception? Moi, je parle d'un nouveau rapport entre l'État et les capitales qui se concrétise, parce que vous, on a ce mot en français aussi, les fameuses PPP, partenariat public-privé. Donc, en réalité, c'est un rapport particulier que l'État établit avec des capitaux privés, loin des supposées formes traditionnelles de la démocratie urbaine, les assemblées, la consultation publique, dans le couloir de la chambre de commerce ou de la mairie, ce partenariat s'établit en tant que règle ad hoc où chaque opération est discutée cas à cas dans un partenariat public-privé. Donc j'ai dit qu'on a d'un côté, d'une face de la monnaie, la ville d'exception, parce que tout devient exceptionnel. Et de l'autre côté, la démocratie directe du capital.
Mais une ville, c'est un objet économique, ce que vous êtes en train de décrire. Mais c'est aussi un objet historique. C'est un objet en devenir, c'est un objet avec une mémoire. Et c'est un objet sociologique. Sociologique au sens de lutte sociale. La ville est l'enjeu et le terrain des luttes. Vous avez eu des luttes formidables l'année dernière, en juin, au Brésil, et vous avez une levée de luttes qui ont l'air d'être assez têtues, assez tenaces, que votre gouvernement est obligé de mater très sévèrement, très violemment. Carlos, la lutte des classes à la peau dure, même au Brésil.
Justement, je prends un côté de la monnaie, l'autre côté c'est que la ville résiste. C'est-à-dire, on pourrait dire, en fin de compte, que cette tendance à la transformation de la ville en entreprise se rencontre avec la ville historique, la ville sociologique, la ville des gens. La ville, depuis son invention, elle a toujours été le siège du marché et du pouvoir. La ville a toujours été city and polis, hein, lieu de l'affaire et lieu du politique. Évidemment, la transformation de la ville entre entreprises représente la tentative de tuer la dimension politique de la ville. Au marché, on ne discute pas politique, on fait des affaires. Si vous n'êtes pas un homme d'affaires, si vous n'avez pas d'actions sur cette entreprise, vous n'avez pas droit à être dans l'assemblée urbaine. Et justement, les gens disent non, on veut être parti de ça. Donc il y a une tension permanente qui en ce moment, dans nos villes brésiliennes, explose entre la dimension strictement et purement économique et financière qui veut faire de la ville une entreprise, point, et les citoyens qui disent « ça c'est un espace politique, on veut discuter le destin de notre ville ». Les indignés, les gens à la place à Sintagma, à Athènes, ils vont sur la place publique, ils réaffirment la dimension publique de l'urbain. Et dans ce sens-là, il lance un défi au processus de financiarisation et privatisation des villes.
Carlos, j'en reviens quand même à ces luttes sociales. Effectivement, la taupe, le souterrain des choses. Walter Benjamin parle du souterrain des choses. Et ça remonte, c'est ce qui est arrivé là. Mais actuellement, on voit bien qu'il y a une lutte quand même entre les mouvements sociaux qui sont forts, qui ont leur légitimité. Mais pour vous, dans votre esprit, ça va avec. L'un n'empêche pas l'autre. Or, on va voir dans les jours prochains, on le voit déjà dans les médias, on voit que tous les commentaires sont sur le foot et la partie sociale est en train de réduire et ça va être le football qui va passer devant. Le football contre le social.
Au contraire. Vous n'étiez pas ici la dernière Coupe du Monde ou l'avant-dernière Coupe du Monde ou l'avant-l'avant-dernière Coupe du Monde. Si vous demandez à n'importe qui dans cette ville, vous arriverez à la conclusion que la population était beaucoup plus mobilisée pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, que celle-ci. Si vous traversez notre ville il y a 4 ans à ce moment-là, la ville était entièrement décorée pour la Coupe du Monde, ce qui n'arrive pas à ce moment. Et ça, c'est le paradoxe. Il y a une espèce, je ne sais pas si je peux le dire en français, de désaffection pour le jeu. Les gens voient le jeu, mais ils ne sont pas tout à fait à l'aise. Donc il y a un peu ce sentiment que malgré tout, il y a une grande fête ici et nous n'avons pas été invités.
C'était La Coupe est pleine, le deuxième volet d'un reportage de Daniel Mermet et Antoine Chao. Traduction Anne Vigna, merci à Roberto et Carlos Weiner. Montage Guy Vanctil et Jonathan Duong. À la technique aujourd'hui, Anne-Laure Cochet et Elisabeth Collet. Une émission réalisée par Lucie Hakoun, Franck Aderer et préparée par Jonathan Duong. C'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici?
Je viens voir un spectacle.
En quoi il vous concerne? En quoi il vous intéresse?
Il aurait pu m'intéresser, franchement. Ah. Mais ça ne représente pas tout à fait la vision des choses.
Pourquoi il aurait pu vous intéresser?
Parce que je suis ancienne détenue, voilà.
Il parle de quoi, ce spectacle?
Des filles incarcérées, et voilà. Et qui ne représentent pas tout à fait ce que moi j'ai connu.
C'est intéressant ça. En quoi ce que vous avez connu?
Non, la violence, le tout, non, ça ne représente rien du tout de tout ça.
C'est extrêmement violent.
Oui.
Ah oui.
Voilà.
Le spectacle est violent.
Le spectacle est extrêmement violent et le quotidien en maison d'arrêt de femmes ne l'est pas.
Ah oui. C'est pas du tout pareil, non.
Parce que vous, je sais pas votre prénom.
Michel.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Tempête dans le bois de Vincennes pour cette soirée manifestive intitulée Le ciel à moitié. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site cielamoitié.wordpress.com. Alors vous, Michel, vous êtes une ancienne détenue et vous, madame?
Moi, j'ai travaillé en prison.
Et qu'est-ce que vous faisiez?
J'étais enseignante.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être enseignante en prison ?
Une histoire d'aller voir si c'était pareil que d'enseigner dehors, d'aller enseigner dedans. A priori, je pensais que c'était la même chose, et non, en fait, c'est pas du tout la même chose d'enseigner avec des gens qui sont dedans.
Ils sont plus attentifs ?
Non, au contraire. Ils ont un autre rapport au temps, à l'espace, à leur propre intérieur, et en même temps aux autres. Ils ont un autre rapport aux autres. Qu'on soit n'importe quel professionnel de santé, d'enseignement ou de l'administration, on est toujours sous la loupe de leur analyse, ils sont extrêmement fins sur nos failles, sur nos difficultés, sur voilà.
Vous enseignez quoi ?
L'alphabétisation.
Michel, quel souvenir vous gardez de votre séjour en prison ? Combien de temps vous êtes resté ?
Je suis restée 4 ans et malheureusement, je n'en garde pas un mauvais souvenir.
Pourquoi vous dites malheureusement ?
Mais non, mais contrairement à ce que l'on vient de voir. Ah, oui. Non, mais enfin, moi, c'est une situation peut-être différente, on va dire.
Pourquoi ?
Parce que la prison était dehors pour moi.
Dehors ?
Avant,
ah, oui.
Voilà.
Ah oui, c'est ça, oui. Vous étiez plus libre à l'intérieur que...
Voilà, tout à fait. Ouais. Ça m'a libérée. C'est bizarre. Hein.
Qu'est-ce qui vous enfermait à l'extérieur, si je puis dire ?
Qu'est-ce qui m'enfermait ?
T'es pas obligée.
Non,
je suis pas obligée.
Non, non, mais vous êtes libre, évidemment. Moi, je suis, comme
aujourd'hui,
disait...
Aujourd'hui, oui. Complètement. Et dedans et dehors.
Comme disait José Arthur, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes.
Discrète,
donc moi, je pose des questions, et puis après... Ouais. Est-ce que je peux savoir ce que vous aviez fait qui a nécessité d'aller en prison ?
Oh, c'est vraiment une peine très dure. Enfin, ce que j'ai fait, c'est très dur. J'en ai toujours été consciente. J'ai toujours, si vous voulez, j'ai toujours pensé que je méritais la prison pour ce que j'avais fait. Ouais. Donc j'ai beaucoup mieux accepté, peut-être aussi. Les gens qui viennent en prison, souvent, sont innocentes. Vous voyez, quand vous rencontrez les gens autour de vous, elles sont toutes innocentes.
Ah oui.
Moi, je n'étais pas innocente. Et bon, voilà.
Vous assumiez ce que vous aviez fait.
J'assumais totalement.
Alors qu'en prison, 99% oui, des gens...
Oui, bon, beaucoup quand même. Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait dans la société qui mérite qu'on aille 4 ans en prison ? Vous faites des signes. Mais bah, elle est libre, Michel.
Non. C'est moi qui la protège.
Ah bon, d'accord. Comme vous disiez que vous assumiez ce que vous aviez fait, ce qui était assez rare en prison, je me disais, vous ne voulez pas l'assumer au micro et dire, voilà, j'ai fait ça et j'ai eu une peine de 4 ans.
Non, déjà vis-à-vis de ma famille et tout ça, je trouve que c'est pas... on ne va pas remettre tout ça sur le tapis, quoi. Je veux dire, voilà.
Pour vous, vous avez purgé votre peine, si je puis dire, et maintenant, c'est une nouvelle vie.
Je suis inconditionnelle.
Ah, vous êtes en liberté conditionnelle, d'accord. Pendant combien de temps ?
Jusqu'en 2015.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ?
Je travaille.
Dans quoi ?
Dans un magasin.
J'ai
eu la chance d'être beaucoup soutenue, d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis. Et ça m'a forcément sauvée. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup
moral, ouais, moral et matériel.
Enfin, matériel, j'ai travaillé, donc j'ai jamais eu de soutien.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la préparation à la sortie, oui, comme on en parlait tout à l'heure, l'administration pénitentiaire qui l'a fait.
Non, c'est tout à fait. Ce sont mes amis. Et ce que je reproche justement à la prison, c'est que au système, c'est que malheureusement, on est en prison et après, bon, on vous lâche. Alors moi, j'ai eu des amis, ça a été, j'ai pu me réinsérer normalement, mais une fois que vous êtes dehors, vous faites quoi ? Il n'y a pas de réinsertion préparée, si vous voulez. C'est ça qui est dramatique. La prison, à la limite, comme d'ailleurs, il y a une jeune fille qui l'a dit, qu'est-ce qu'on va faire dehors après ? On est bien ici, oui, dans le spectacle. Et c'est vrai, je veux dire, elles ont presque peur de sortir.
Bon, si on en saura plus, il y a oip.fr.
Voilà, donc le rêve de ma vie, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Merci.
Le mélanome est le plus grave des cancers de la peau. Au stade avancé, il peut s'avérer mortel. Si jusqu'à présent, nous n'avions pas de traitement efficace, aujourd'hui, les choses évoluent. De nouveaux traitements laissent place à l'espoir, même si ce n'est pas encore suffisant pour envisager la guérison. C'est donc le moment d'agir. Finançons directement des chercheurs de Gustave Roussy pour poursuivre cette dynamique. Vous pouvez envoyer vos dons sur ensemblecontrelemelanome.fr ou gustaveroussy.fr.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette.
Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Oui. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister.
Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress.
Vraiment ?
Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui.
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INBES et du ministère de la Santé.
France Inter, partenaire du Festival des Nuits de Fourvière à Lyon, du 3 juin au 2 août. Théâtre, danse, musique, cirque, opéra, un programme riche en créations et premières françaises. Dans le cadre exceptionnel des théâtres romains de Fourvière, le festival accueille entre autres Robert Wilson, Gwenaëlle Morin, Mourad Merzouki, mais aussi les concerts de Bernard Lavillier, Damon Albarn, Vanessa Paradis, Plaza Francia et bien d'autres. Retrouvez en public On va tous y passer à 11h et On va déguster à 15h le mercredi 11 juin. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter, partenaire du Festival de Saint-Denis du 3 au 27 juin. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, Julia Fischer, Myung-Woon Chung, présente Brahms, Mendelssohn et en clôture, Elias, le dernier chef-d'œuvre de Mendelssohn avec le chœur de Radio France et l'Orchestre National de France dirigé par Daniel Egatti. Renseignements sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, très bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Moscou dénonce un nouveau crime des forces ukrainiennes. Réaction après la mort aujourd'hui d'un journaliste russe à Lugansk, dans l'un des bastions pro-russes de l'est de l'Ukraine. Selon un médecin de l'hôpital, il a été touché à l'abdomen par les éclats d'une grenade ou d'une mine. Il a été pris avec son preneur de son dans une attaque lancée par les forces ukrainiennes près de la frontière russe. Le ministère des Affaires étrangères russe demande maintenant l'ouverture d'une enquête à Kiev. Les associations dénoncent aujourd'hui un climat malsain et un discours stigmatisant vis-à-vis des Roms. Cela fait suite au lynchage d'un adolescent rom en fin de semaine dernière à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Darius vivait avec sa famille depuis un mois dans une maison désaffectée près de la Cité des Poètes et il aurait été enlevé chez lui et battu à mort par une douzaine de jeunes qui le soupçonnaient de cambriolage dans un appartement de la cité voisine. Le véritable auteur de cette tentative de vol a été en fait mis en fuite par un habitant qui a donné la description d'un jeune homme ressemblant à Darius. Le jeune homme âgé de 16 ans est toujours dans un état critique. Aujourd'hui, ce matin, François Hollande et Manuel Valls ont exprimé leur indignation. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lui, a rappelé que c'était aux forces de sécurité de faire respecter l'ordre public exclusivement. Au procès de Nicolas Bonnemaison devant les assises de Pau, Jean Leonetti a défendu aujourd'hui la loi sur la fin de vie qui porte son nom. Nicolas Bonnemaison, qui comparaît depuis la semaine dernière pour 7 empoisonnements sur des personnes en fin de vie, n'est pas un assassin, dit-il. Mais selon le cardiologue et député UMP, il a choisi la transgression, l'illégalité. « Je ne me considère pas comme un médecin tout-puissant au-dessus des lois », a répondu Nicolas Bonnemaison. « Je suis un médecin qui essaie de faire le plus humainement son travail. Son procès doit s'achever en fin de semaine prochaine. » Dans l'affaire des biens dits mal acquis en France, la plainte de l'État sénégalais contre le fils de l'ancien président du Sénégal, Karim Ouad, a été classée sans suite le mois dernier, selon ses avocats. Karim Ouad est actuellement incarcéré au Sénégal et il sera jugé fin juillet pour enrichissement illicite. Les autorités sénégalaises lui reprochent d'avoir acquis illégalement 178 millions d'euros et elles estiment qu'une partie de l'argent pourrait avoir été investi en France. Plainte fantaisiste, selon ses avocats. Les biens immobiliers dont il est question en France n'appartiennent pas à Karim Ouad et la moitié de l'argent correspond à un compte à Singapour dont il est prouvé qu'il n'appartient pas non plus au fils de l'ancien président sénégalais. D'ici une heure, les députés entameront le débat sur la réforme ferroviaire, mais les cheminots grévistes, eux, ne désarment pas. Ils ont manifesté aujourd'hui à Paris et dans plusieurs grandes villes. Certains ont bloqué en début d'après-midi les voies des Transiliens gare Montparnasse. Et puis à Lyon, entre 200 et 300 cheminots ont investi les locaux de France 3 Rhône-Alpes. Ils réclament une prise de parole télévisée en échange de leur retrait. Demain, le mouvement lui est reconduit. 8e jour de grève. D'après la direction de la SNCF, le trafic sera encore perturbé, mais il s'améliore. Comptez 7 trains sur 10 sur les grandes lignes, donc demain. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
France Inter, partenaire du festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, les 3, 4, 5, 6 juillet 2014.
Garden Party Pop Rock, le festival Beauregard ou la vie de château au cœur de la basse Normandie. Au programme de cette 6e édition, 2 scènes, 33 artistes pour nous faire passer des moments uniques. Stromae, Pixies, Agnès Obel, Damon Albarn, Blondie, I Am, Chaka Ponk, Foster the People, Portishead, Fauve et bien d'autres. Retrouvez le festival Beauregard dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr. Stop.
France Inter.
La voix est libre.
Au galop, Frédéric, c'est à vous.
On fonce. Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Merci d'être avec nous. Allez, un petit tour vers Auvers, tout simplement, à Auvers-sur-Oise et dans la région qui est si belle, non loin de Cergy-Pontoise, de Pontoise, enfin à l'ouest. Et dans cet endroit-là, il y a ce festival dont nous sommes partenaires très fidèlement, tout comme le festival est fidèle à ses artistes. Alors, cette année, il y a par exemple Denis Matsouef, qui est un virtuose extraordinaire, qui a obtenu à 23 ans le Grand Prix international Tchaïkovski, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, autant dire, du piano. Et on reste sans voix devant sa virtuosité. Il y aura aussi Katia Bouniatichvili, tout aussi charmeuse que virtuose, Romain Leleu, avec son ensemble Convergence, trompettiste digne descendant de Maurice André, Roger Muraro, le costaud, le solide, l'intellectuel actif du piano, celui qui a joué Messiaen devant Messiaen avec l'approbation du maître lui-même. Bref, voilà, quatre récitals proposés par France Inter et le festival d'Auvers-sur-Oise. Je vais vous faire entendre tout de suite Denis Matsouef. Il va, avec ses amis, donner une nuit russe le 20 juin. Eh bien, le voici tout de suite dans le premier concerto avec trompette obligée quand même de Dmitri Chostakovitch, Allegro con brio. Thank you.
Rigolo, n'est-ce pas, avec cette trompette pétulante. C'est la conclusion du premier concerto pour piano avec trompette obligée de Dmitri Shostakovitch par Matsouev. Et Matsouev, bah, c'est un personnage absolument extraordinaire. Je l'ai dit, on l'appelle le Liszt de Sibérie, tout simplement. Et il sera à Auvers-sur-Oise, donc il donne une nuit russe le 20. Mais nous vous proposons 18 places pour le 19, jeudi 19, à l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise. Et il y aura du Haydn, du Schumann, du Chopin, du Stravinsky. Vous pouvez appeler tout de suite le numéro d'Auvers-sur-Oise pour avoir soit des places donc pour Denis Matsouev, ou alors pour Katia Bouniatichvili, le mercredi 25 juin. Le 27, il y a Romain Leleu et son ensemble Convergence. Et le 1er juillet, Roger Muraro. Donc numéro 01 30 36 70 82. Je répète, 01 30 36 70 82. À vos téléphones, si vous voulez bien. Donc un beau récital de Denis, et puis le lendemain, mais ça déjà peut-être c'est déjà plein, il donne une nuit russe avec ses amis. En tout cas, voici maintenant Katia Bouniatichvili, après avoir entendu donc ce concerto avec Timur Martinov, trompettiste, Valérie Gergiev qui dirigeait l'orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Voici maintenant la belle Katia.